Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous accueillir pour cette belle émission Mission Vision. Et aujourd'hui, on va parler, en fait, je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait reçu une superbe invitée, Cilia Cassel. Et tout d'un coup, dans son entrevue, il y a un nom qui est sorti, quelqu'un qui l'a aidé à l'école, Alexandre Poitras. Donc, il est ici. On va pouvoir parler de cette façon-là, d'accueillir, d'accompagner les jeunes au niveau du poste secondaire. Et on le voit beaucoup là en ce moment. Puis je suis même curieuse par rapport aux restrictions, qu'est-ce qui se passe là au niveau du cégep et de l'université. Donc, on va parler avec Alexandre Poitras. Et tout de suite après, on va parler d'audio-description. On va aller un petit peu plus dans le monde culturel et artistique. Donc, j'ouvre le micro à Alexandre. Mais c'est pas moi, c'est Mathieu qui ouvre le micro. Et bonjour Alexandre.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Je vais très bien. Merci de me recevoir à nouveau. Hein?
Oui, en fait, on s'est vu l'année passée.
Exactement.
Mais c'est pas un secret, là. On est aussi amis dans la vie de tous les jours. Mais moi, je m'attendais pas à ce que Cilia te nomme pendant l'entrevue. Et là, c'est tout de suite, j'ai dit, ben oui, je le sais, moi, qu'il t'a accompagné au cégep de Saint-Laurent.
Mm-hmm.
Et là, j'ai dit, ben oui, il va être là dans quelques émissions, donc on va pouvoir en parler davantage avec lui. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que on parle souvent de l'accompagnement primaire, secondaire, mm-hmm. mais un peu moins au niveau du post-secondaire. Et là, je trouve qu'avec toute depuis l'année passée, on a vu partout là, des coupures. Comment ça se passe concrètement là, au niveau post-secondaire? Là?
C'est sûr que ça a des impacts quand même. Je pourrais pas dire significatif parce que j'ai pas mesuré chacun des collèges ou des universités, mais par contre, oui. Ça a changé les pratiques, ça a changé la façon qu'on voit aussi ou le temps qu'on peut accorder, accompagner les personnes en situation de handicap, mais notamment les personnes avec un handicap visuel. C'est sûr que oui, parce que avec les restrictions budgétaires ou avec le fait qu'on ne peut pas embaucher une personne, mais des fois, les accompagnateurs, faut se réinventer. Donc, des fois, on embauchait une personne accompagnatrice pour, justement, travailler certains points précis avec la personne. Mais à ce moment-là, bien, on ne pouvait pas la rembaucher parce qu'on a un plafonnement des heures travaillées. Donc, ce qui nous faisait en sorte qu'on devait revoir à l'interne. Mais la personne à l'interne, peut-être qu'elle n'avait pas l'expertise ou elle n'avait pas les connaissances suffisantes pour accompagner. Donc, ça arrivait des fois, on devait faire des gymnastiques, donc est-ce que ça a amené une surcharge de travail pour d'autres personnes? Est-ce qu'on a dû faire des choix au niveau des accompagnements? Certains cégeps ont sûrement dû faire ces choix-là, mais c'est sûr que ça a changé nos pratiques.
Mais c'est ça, c'est que ça a changé les pratiques.
Oui.
C'est que dans le fond, c'est depuis l'automne, ben même un peu avant, ça a commencé.
En novembre 2024, lorsque on a eu l'annonce là, du gouvernement qu'on ne pouvait pas embaucher et ni puis on ne pouvait pas remplacer les personnes en maladie, étant donné qu'on avait un plafonnement des heures travaillées.
Ouais.
Ce qui fait en sorte que cette restriction là a amené des changements quand même significatif là, dans les services, notamment dans les services pédagogiques, mais dans les services aussi auprès des étudiants, malgré qu'il y avait des règles pour les personnes là, qui travaillent en service direct auprès des étudiants. Eux, on avait le droit de les remplacer. Par contre, on avait la contrainte des heures travaillées qui devaient être prises en considération. Donc, ce qui fait en sorte que c'était un peu contradictoire. Si je remplace la personne, elle compte en double. Donc, automatiquement, il y a quelqu'un d'autre que je ne peux pas remplacer.
Okay, ouais.
Donc, puis ça... Il y a
après
eu des
ça,
choix,
il y a eu tout
là,
2025,
ça.
On
exact.
A vu là, pendant l'année tout ce qui se passait au niveau médiatique.
Exact.
Mais c'est parce que la différence avec justement le cégep et l'université, tu sais, même je pense qu'il y a une distinction à faire entre le cégep et l'université.
Tout à fait.
Oui,
le niveau d'autonomie qu'on demande au niveau collégial, c'est une progression. On se cachera pas, quand les étudiants arrivent en première session collégiale, ils ont des défis au niveau postural. Donc, quand je vais parler de le défi postural, c'est vraiment le changement du paradigme de « je reçois des services lorsque je suis au secondaire » à « je dois demander des services ». Donc, tout ce qui est la déclaration, tout ce processus-là est très demandant et c'est quelque chose qui est nouveau pour les personnes en situation de handicap mm-hmm. ou les personnes qui ont des défis particuliers. Oui. Notamment, s'ils ont des défis au niveau émotionnel, au niveau éducatif, au niveau organisationnel, s'ils ne le disent pas, ils n'ont pas de service. Ce qui fait en sorte que des fois, se retrouvent avec leur petit baluchon à eux-mêmes et ils doivent tout travailler dans leur coin. Et nous, on leur lance des perches, on va les voir, on parle avec les enseignants, mais tant aussi longtemps que l'étudiant ne vient pas faire le pas vers nous, nous, on ne met pas de service en place. Et c'est là le gros défi des étudiants qui arrivent au collégial.
Mais ça veut dire qu'automatiquement, si l'élève... Tu sais, on va prendre un exemple très, très gros. Là. Exemple, un élève là, qui est aveugle.
Oui, hein, tout à fait.
C'est assez gros, là, dans le sens que c'est évident. Là,
c'est
que
assez visible.
C'est visible. Oui. Hein? Bon, ça veut dire, si cette personne-là ne vient pas vous voir pour vous dire hey, « moi, je suis aveugle et j'ai besoin d'aide
oui. »,
vous pouvez rien faire.
Bien, on peut faire quelque chose. On a quand même des obligations au niveau de la santé et sécurité dans le lieu physique.
Oui.
Donc, l'accessibilité, c'est une loi, c'est l'accessibilité universelle qui s'applique. Par contre, une fois que la personne, celle, elle ne demande pas le transport adapté,
mm-hmm.
c'est pas le collégial qui va s'en occuper. On va lui dire, bien, il y a du transport adapté qui existe.
Oui.
Donc, puis je vais aller dans le concret avec dans mon processus d'accompagnement que j'ai fait avec Cilia.
Oui. Sait qu'elle a une cécité
exactement
complète
et elle a pas de un résidu visuel, elle n'a
non.
pas là, donc c'est vraiment deux globes oculaires là prothèses qu'elle a.
Oui.
Lorsqu'elle est venue me voir aux portes ouvertes un an avant son entrée au collégial, je l'ai reconnue bon par le fait que j'écoutais la voix junior, donc on a créé notre lien par rapport à cet intérêt là. Et je lui ai dit, Cilia, une fois que tu auras fait ta demande d'admission en avril et tu as eu ta réponse, je veux que tu m'écrives, on va se rencontrer parce qu'on va déjà préparer ta transition.
Oui, on va préparer ton arrivée finalement.
Exactement. Parce que Cilia, lorsqu'elle était au secondaire, elle avait une personne qui était une accompagnatrice individuelle pour elle.
Oui.
Donc, elle faisait beaucoup de choses pour elle et qui l'aidait et la soutenait. Il y avait des choses qu'elle ne faisait pas seule et que moi, je demandais qu'elle fasse seule dans sa transition. Donc, on a préparé avec son père, avec Cilia, un plan de transition pour arriver au collégial. Donc, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place qui appartient à Cilia et qui appartient à ses parents qui peuvent la soutenir?
Oui.
Donc, on a parlé du transport adapté, on a parlé... de se déplacer, l'orientation dans le cégep, l'orientation, la mobilisation, contacte ton intervenante, je veux la rencontrer. Moi, je dois planifier, installer les logiciels spécialisés sur nos ordinateurs pour qu'elle puisse y avoir accès. On ne sait pas des logiciels comme ZoomText que je peux installer.
Non.
Parce que ce n'est pas un agrandissement dont elle a besoin. C'est, c'est un autre logiciel là, de
synthèse vocale.
Donc, un lecteur d'écran, mais qu'elle va utiliser comme synthèse vocale, qui est Jazz. Donc, toute cette installation-là, je devais coordonner. Mais je ne pouvais pas me permettre de le faire au mois d'août, alors que Cilia commençait son cégep au mois d'août. Moi, je devais avoir tout en place avant qu'elle arrive. Quelque chose que j'avais demandé à Cilia, c'est d'utiliser les plateformes et de voir qu'est-ce qui était accessible et qu'est-ce qui n'était pas accessible. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cilia, c'était ma première étudiante une cécité complète qui est arrivée au collégial que j'accompagnais.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Donc, j'avais un inconfort, pas envers la personne, mais envers le type d'accompagnement que je fais. Est-ce que je l'accompagne et j'en fais plus de ce que je devrais faire? Est-ce que je brime son autonomie? Est-ce que je la réconforte aussi dans sa zone de proximal de développement? Est-ce que je la challenge suffisamment pour qu'elle développe son autonomie? Donc, il y avait tout ce jeu-là d'aller-retour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est arrivé, et Cilia est arrivée au collégial, on était en pleine pandémie.
Oui.
Donc, on était pas dans des conditions optimales d'intégration. Non. Donc, je ne pouvais pas voir Cilia, il fallait que j'aille un masque. Donc là, il y avait toute la barrière linguistique au niveau du masque. Bon, on l'a engagé pour qu'elle m'entende. il y avait tout le côté de les déplacements. Donc, les déplacements qu'on lui faisait faire, mais présentement, on devait tout effacer et de lui refaire faire lorsque tous les étudiants allaient revenir au cégep.
Ah oui, oui.
En 2022, à l'automne 2022, on a eu cette progression-là.
Mais oui.
Et on avait un défi colossal, donc de partir du pavillon central et aller au pavillon de musique. Et elle devait passer directement dans le stationnement.
Oh.
Donc, ce qui a fait en sorte que...
Pour la sécurité.
Pour la sécurité, on a mis des choses en place de façon sécuritaire, mais on a mis aussi un accompagnateur, une personne physique.
OK, oui.
Qu'on se faisait un relais et on accompagnait Cilia pour s'assurer que dans son apprentissage au niveau de son déplacement sécuritaire, elle soit en sécurité et qu'elle ne fasse pas face à un autre tour.
Mm-hmm,
parce
qu'il
y a bien beau allumer les lumières...
Elle ne les verra pas. C'est ça.
Donc, il y avait tout cet enjeu-là.
Mais là, c'est pour ça, comme tu dis, il y a vraiment comme cette transition-là, il y a vraiment comme ce jeu-là que toi-même, tu dois dire, OK, bon, ça, c'est, tu sais, j'en fais-tu trop, j'en fais-tu pas assez?
Exact.
Mais le but, c'est d'aller vers une autonomie.
Une autonomie pleine.
Pleine pour...
Et qu'elle puisse dire, voici, bonjour Alexandre, moi, j'ai besoin de ça. Et on est arrivé après... Cilia, elle avait un programme de 2 ans, on l'a fait faire sur 3
ouais,
ans. Oui,
c'est ça.
Donc, la première année, on a mis des cours avec ses intérêts. On a mis des cours de formation générale pour qu'elle puisse un peu faire vivre le tout. Puis, on a retardé les cours d'éducation physique parce qu'on avait des enjeux au niveau d'accessibilité, au niveau de l'éducation physique. Elle a fait deux cours d'éducation physique, un en pandémie, derrière un écran, faire du yoga. Il y a eu des situations quand même, beaucoup, beaucoup d'adaptations qui ont dû être faites de la part de l'enseignante, mais on est arrivé à certifier Cilia là, au niveau de l'éducation physique. Et elle a fait un deuxième cours d'éducation physique qui était de la musculation, donc où toutes ces stations de musculation, elles n'avaient pas de déplacement.
Donc, tout était mis
en place. On avait tout mis en adaptation.
Place. Ouais. Mais là, ça veut dire que quand... Là, on le sait, là, il y a vraiment... moi, je trouve que la différence entre le secondaire et le cégep, c'est parce que c'est une transition. Donc, il y a des étudiants qui peuvent avoir 17.
Exact.
18 ans, tu sais, dans le sens qu'ils suivent leur parcours normal.
Oui, il y en a qui sont dans leur parcours linéaire, donc après le secondaire, ils s'en viennent au collégial.
Mais au collégial, tu peux en avoir qui ont 45 ans, là aussi, là.
Oui.
Alors là, c'est là aussi toute cette gestion-là, parce que j'ai 45 ans, j'ai un handicap visuel.
Oui.
C'est comme différent de la personne qui a 17 ans aussi.
Tout à fait. Et
pour l'autonomie, là.
Bien oui, il y a tout au niveau de l'expérientiel aussi qu'il ne faut pas négliger, mais il y a toute la connaissance de soi.
C'est ça.
Donc, tu sais, advenant que tu décidais de refaire un retour aux études pour X, Y raison, donc tu décides de faire un autre programme d'études.
Oui.
Contrairement à ce que tu as vécu lorsqu'on était ensemble au collégial, tu as été voir une personne, tu as dit, bon, ben j'ai X, Y, Z limitation, donc.
Oui.
On va mettre des mesures un peu. Et là, il y a tout un processus que tu vivrais, que tu n'as pas vécu en 2004.
Non, ce serait
complètement
différent.
Ça
serait différent parce qu'au niveau de l'expérience, comme tu dis, là, tu sais, je suis pas une petite fille. Là.
Exactement. Donc, tu te connais davantage.
Oui.
Tu es en mesure de dire, non, moi, cette mesure-là ne fonctionnera pas pour telle raison. J'ai besoin de telle mesure. Ça va venir pallier telle limitation. Puis moi, à partir de tant de temps, j'ai une surcharge cognitive, j'ai une fatigue oculaire. Et c'est toute cette connaissance-là que les étudiants, lorsqu'ils arrivent au secondaire, on leur pose ces questions-là, ils n'ont pas ces connaissances-là.
Mm-hmm.
Donc, ce qui a fait en sorte que on a tout appris avec Cilia.
En fait, oui, tu dis on a tout appris, mais c'est parce que, tu sais, je pense que le fait qu'elle arrivait du secondaire, est-ce que quand elle arrive du secondaire, elle a... tu sais, comme justement, il y a une transition. Les professionnels qui l'accompagnaient se sont assis avec toi, t'ont parlé ou pas. Parce que, tu sais, entre le primaire et le secondaire, il y a ça.
Oui.
Il y a le chemin.
Exact.
Il est comme tracé. Mais au niveau du cégep,
Bien, effectivement. Donc, ce qui arrive au collégial, lorsqu'on a des dossiers un peu plus, je vais dire, complexes, pas parce que la personne est complexe, mais les situations d'intégration est plus complexe,
oui.
Notamment que ça demande plusieurs acteurs alentours, oui, on va demander est-ce que l'intervenant qui l'a suivi lorsqu'il était au collégial, okay. Au secondaire, de venir s'asseoir avec nous et qu'on puisse faire un plan de transition linéaire. Ce qui est arrivé okay. avec Cilia, mais aussi on avait demandé les intervenants de l'Institut Nazareth-Louis Braille, oui. qui avait un dossier actif pour Cilia, pour qu'elle vienne aussi m'expliquer mm-hmm. c'est quoi les enjeux et c'est quoi sa zone proximale de développement. Au niveau du déplacement, est-ce que c'est un point de vigilance? Est-ce qu'elle est autonome? Et on a mis des choses en place pour, un, je dois assurer sa santé et sécurité, et deux, il faut que je mette des processus en place que
oui.
si elle est contrainte ou est dans un endroit où elle ne se reconnaît pas, faut qu'on trouve un repère et elle peut m'appeler.
Oui, mais c'est ça aussi, je trouve, l'enjeu. C'est que toi, Alexandre, oui, quand on était jeunes, tout ça, on a fait le cégep ensemble. Donc, tu sais, t'as vu un peu, là, ça pouvait ressembler à quoi, une fille oui. qui a un handicap visuel. Bon,
oui.
dans ce sens-là. Mais ça reste que tu n'es pas un professionnel
du tout.
De l'handicap visuel.
Du tout.
Mais là, ça veut dire qu'au 4-4, toi, t'as ton poste au niveau collégial. C'est comme si tout d'un coup, tu dois devenir expert.
Bien, moi, je me vois comme un généraliste.
Oui,
okay.
T'es comme un généraliste, mais on dirait que ça induit un peu comme si tu dois être un expert tout d'un coup de cette limitation-là, parce que là,
il y a des personnes qui vont se dire, moi, il faut que je prenne le rôle de l'expert et c'est moi qui dois être en contrôle. C'est pas ma posture à moi. Moi, dans ma posture, c'est la personne experte d'elle-même, c'est la personne avec la situation d'handicap parce que je connais les situations d'handicap, mais comment elle le vit et comment elle se le traduit, ses limitations, c'est elle qui le sait. Et c'est là l'enjeu au collégial, c'est que c'est toute la connaissance de soi. Mais une fois qu'on a travaillé sur la connaissance de soi et que la personne est capable de répondre à mes questions, on est en mesure d'élaborer ensemble jusqu'où moi je vais aller dans son accompagnement et combien de temps.
Mm-hmm.
Est-ce que je vais prendre la posture de guide? Donc, par exemple, je vais être vraiment à côté d'elle et je vais la guider tout le long de son parcours scolaire. Oui, l'aide pédagogique individuelle
pourrait.
A un rôle de guide. Est-ce que je vais prendre le rôle de coach? Est un peu plus axé sur un objectif précis. Après qu'on a atteint cet objectif-là, on s'en va sur un autre objectif.
Un autre, ainsi de suite.
Arriver à la fin et vivre une grande réussite, mais on y va avec des petites réussites.
Ouais.
Ou je vais être plus dans une posture de... c'est pas une posture reconnue dans la recherche, mais je vais dire la posture Mère Teresa. Ce qui veut dire que je vais tout mettre
oui.
en
il y a
place.
Une posture comme...
Bien, c'est pas une posture qui est reconnue, c'est pas scientifique.
Mais
ça
peut arriver,
mais,
là.
Mais je peux avoir peux me prendre pour Mère Teresa et de vouloir et sauver la personne.
Oui.
Et de tout être dans son bien-être et ne pas la sortir de sa zone de confort et de m'assurer qu'elle vive que des réussites et qu'on ne la mette pas dans une situation d'échec.
Mais oui. Oui, oui.
Donc,
ça pourrait... Oui,
mais à ce moment-là, est-ce que on est dans une posture que je l'aide, je la soutiens ou je contribue à la situation d'handicap. Parce qu'on sait que la situation d'handicap, c'est l'environnement qui n'est pas adapté.
Oui.
Mais si on n'adapte pas l'environnement, c'est une chose. Mais si on ne développe pas des stratégies compensatoires pour que la personne s'adapte aussi dans l'environnement, on contribue à une situation d'handicap.
Mais c'est là que ça, je trouve ça super intéressant que tu dises ça. Parce que, comme professionnel, de dire tout d'un coup, tu sais, de se remettre en question puis dire, est-ce que je t'entraîne là? De contribuer à sa situation d'handicap, ben, parce que c'est sûr que ça arrive.
Parce
qu'on reste des humains, là. Hein? Tu sais, je veux dire, tout professionnel est un humain. Mais c'est pas tout le monde qui se pose cette question-là parce que c'est confrontant, Alexandre, là.
Mais c'est extrêmement confrontant. Puis tu sais comment que j'ai travaillé sur moi, sur justement l'accepter de me porter un regard sur ma pratique et dans la pratique.
Oui.
Mais tu sais, par exemple, lorsqu'on se côtoie à l'extérieur et qu'on est en train de marcher, présentement, les rues sont pas super bien déblayées.
Non.
C'est quand même...
Ça peut glisser.
Ça peut être glissé. Dans ton cas, tu te ramènes avec ta canne, tout ça.
Ça coince dans les bandes
de neige. Puis je peux être à côté de toi.
Oui.
Mais est-ce que je vais tout de suite te donner la main parce que je vais prendre pour acquis que, t'es pas en sécurité, fait qu'il faut que je te sauve.
Oui.
Ou je vais être à côté de toi, je vais porter un regard et je vais te laisser le choix de dire, Alexandre, est-ce que tu peux me donner ton bras?
Exact.
Pour avoir un appui ou je te l'impose.
Tu l'imposes.
Et là,
c'est, ça.
C'est ce jeu-là qu'on est toujours en interaction puis en relation puis dire, OK, jusque où je peux aller? Est-ce que je la confronte? Est-ce que je l'infantilise ou je la rends autonome puis elle décide à quel moment elle a besoin de mon aide?
Oui.
Il y a tout ce processus-là et plus qu'on travaille avec la personne, mais plus qu'on fait de l'étayage, donc on réduit le niveau de soutien. On soutient
tranquillement.
Tranquillement. On
mais
coupe pas
OK, mais justement, là, quand tu arrives à l'université, là,
Il y en a encore moins de services parce que la population est plus grande.
Oui.
Donc, la personne doit être encore plus autonome et encore plus dire, j'ai besoin de ça. Par exemple, Sylvia a besoin de...
Mais comme là, t'es au conservatoire.
T'es au conservatoire
là,
de la musique, exact.
C'est
un hybride entre... Il y a des programmes universitaires puis il y a des programmes collégiales techniques. Donc, c'est un hybride étant donné que c'est une école spécialisée.
Ouais.
Là, c'est une école... conservatoire de musique, conservatoire d'art dramatique. Donc, c'est des écoles...
Mais ça demande plus d'autonomie.
Exact, parce qu'on s'attend à un niveau plus grand au niveau de l'autonomie.
Ouais.
Mais, par exemple, Sylvia, maintenant, est capable de dire, OK, parfait, j'ai besoin d'avoir mes partitions en braille musical. Mm-hmm. Je veux les avoir pour telle date. On les envoie à tel fournisseur parce qu'on a développé ça. Avant, Sylvia n'avait pas besoin de savoir c'était qui le fournisseur. Parce que c'est moi qui s'en occupais. Mais à un moment donné, ce fournisseur-là a rentré en contact avec Sylvia. Ils ont travaillé ensemble.
Ouais.
Et tranquillement, on a mis une personne enseignante qui coordonnait l'ensemble des actions au niveau de la musique pour s'assurer que les partitions sont bonnes.
Mm-hmm.
Moi, je suis pas professionnel de musique.
Mais non.
Mais je suis capable de savoir que ça va me coûter tant. Mais est-ce que la partition est bonne? Est-ce qu'elle est bien traduite? Est-ce qu'elle est bien... rendu, est-ce qu'on a des enjeux? Moi, je suis pas prêt à ça. Fait que j'ai travaillé en équipe avec l'enseignante de musique qui a donné la formation musicale auditive. Et par la suite, cette enseignante-là, qui est devenue son pilier, elle a fait sa transition avec elle à l'université pour s'assurer de la coordination. Puis après ça, Sylvia a développé tranquillement elle-même son autonomie. Puis dire, maintenant, quand je vais intégrer le marché du travail, il n'y en aura pas d'Alexandre.
Non, c'est ça.
Et ni lorsque je vais aller faire une pièce d'opéra ou je vais aller faire une pièce de comédie musicale, je vais devoir prendre les partitions puis d'aller donner ça à quelqu'un, une fournisseur, pour dire, est-ce que tu peux mettre ça en braille musical pour que moi, je puisse les avoir accessibles et que je puisse apprendre mes textes et apprendre aussi mes partitions.
Mais ça veut dire que, dans le fond, tu as fait le chemin avec, tu sais, pour pas qu'elle se retrouve entre j'avais un certain soutien au collégial et là, tout d'un coup, il n'y en a plus
exact.
Du tout et je dois faire... Mais est-ce que c'est automatiquement ça qui se passe?
Non.
Ben, c'est ça.
Non.
Mais
un des facteurs individuels... faut pas oublier, on est l'être humain est l'outil principal en intervention. Donc, qu'est-ce qui constitue l'être humain? Notre personnalité, notre vision, nos objectifs et notre posture d'accompagnateur. Sylvia, elle a eu moi comme accompagnateur pendant les deux premières années de son cheminement scolaire, puis la troisième année, elle a eu une autre personne accompagnatrice parce que moi, j'ai quitté le collège.
Oui.
Donc, elle a eu une troisième personne, mais la troisième personne avait très peu d'interventions à faire étant donné que j'avais rendu Sylvia à un niveau X d'autonomie.
Oui. Oui.
Donc, tout était mis en place. Donc, c'était juste de la poursuite. Par contre, si j'avais changé ma posture avec Sylvia, puis j'aurais dit, elle m'a fait pitié, elle ne voit pas, elle n'a pas accès. Puis là, non, j'aurais pu la garder dans cette posture-là et après ça, l'envoyer en troisième année avec une autre de mes collègues, puis dire, continue. Puis lui, il aurait complètement changé parce qu'il n'est pas la même personne que moi, il n'a pas la même posture que moi, il n'a pas la même vision que moi au niveau de l'autonomie.
Oui.
Donc, tout ça... c'est un facteur identitaire qui a une interaction et qui influence aussi le niveau d'autonomie de la personne étudiante. Puis ça, on le voit avec les personnes autistes, on les voit avec les personnes avec un handicap visuel, avec un handicap auditif, avec un handicap moteur. On a différents handicaps, incapacités, et c'est comment nous, on perçoit la personne en situation de handicap, avoir une influence sur comment nous, on va les accompagner. Puis c'est pour ça que je te dis, est-ce que je suis un guide? Est-ce que je suis une Mère Thérèse? Ça, c'est moi, en tant qu'individu, en tant qu'intervenant, comment je me positionne et comment moi, je veux amener ça.
Mais ça, c'est toi, comme tu dis, c'est toi personnellement qui fais ça.
Exact.
Parce que ce n'est pas tous les professionnels qui vont avoir cette remise en question-là, parce que, comme je disais...
Mais je pense que...
On veut être là pour aider, en fait.
Je pense que les intervenants sont en mesure de se remettre en question. Mais lorsqu'on sort avec une situation qui est inusitée, quand je dis une situation inusitée, c'est rare qu'on reçoit une étudiante en situation d'handicap avec un handicap visuel de niveau de Cilia. Ce qui fait en sorte que, faut que moi, ça me remet en question, mais Cilia aurait été dans un autre collège et l'intervenant
ça aurait été autre chose.
Et l'autre intervenante, serait aussi remis en question. Parce que c'est inusité, c'est la première fois que ça arrive.
Mm-hmm.
Malgré que j'en avais 280 étudiants. J'avais Cilia,
un handicap visuel.
Oui, exact.
Et puis t'en as pas eu tant que ça non plus, là.
Non, l'année d'après, le message est passé, j'en ai eu une deuxième.
Oui.
Et après ça, là, on...
Mais il y en a quand même pas 25, là.
Non, on est rendu à 4, mais à 4 dans le réseau collégial. Puis lorsque les 4 qui sont en musique, là, en a plus que 4, là, avec des déficiences visuelles, mais 4 handicaps visuels en musique.
En musique?
Et lorsque ça arrive, ils m'appellent. Ils m'appellent parce que, tu sais, j'ai beaucoup fait des choses en place avec eux, mais on en a beaucoup en informatique, en intégration multimédia, on en a en analyse biomédicale, on en a en éducation à l'enfance, éducation spécialisée.
Mm-hmm.
Donc, ce qui fait en sorte que c'est très diversifié.
Oui, c'est ça. Mais il n'y en a quand même pas des tonnes en situation de handicap visuel.
Non. Présentement, avec la base vision inclue, je dirais qu'on est après à une vingtaine, là, peut-être trentaine maximum.
Mais c'est ça. Puis c'est parce que tu es beaucoup au courant aussi parce que tu vas garder un tu es comme associé. Ah oui, c'est vrai, Alexandre, il est excellent pour telle clientèle, celle-là. Donc, c'est pour ça aussi que tu restes comme pilier
de
l'handicap visuel.
Chacun, dans mon travail, on a chacun nos forces. L'handicap visuel n'est pas mon premier dossier où je suis le premier preneur. Moi, c'est les stages, les formations qualifiantes.
Oui.
Donc, je me réfère beaucoup à ma collègue qui a une expertise en handicap visuel et après ça, on travaille en collaboration ensemble.
Alexandre, c'est tout le temps super intéressant parce que je trouve que les étudiants, dès qu'ils quitte le secondaire, on en entend beaucoup moins parler. Comment ça se passe? Je l'ai vécu. T'étais là, tu l'as vécu avec moi. Donc, je trouve ça tout le temps important de te donner une tribune pour venir parler comment ça va. Mais pour terminer, là, en un mot, est-ce que tu dirais que ça se passe bien en ce moment dans les cégeps? Relativement.
Il y a beaucoup de résilience.
Beaucoup de résilience. Parfait. J'aime ça. On va te recevoir une autre fois dans la saison, puis on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, tout de suite après la pause, on va parler d'audio description.